Interrogeons l'histoire, cherchons partout lumière et vérité.
Le fantôme de l'opéra.
Monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, si je prends la liberté de vous écrire, c'est à la suite des informations parues dans la presse concernant la double découverte d'un lac souterrain situé sous l'opéra et au bord de ce lac d'un squelette dont le doigt était orné d'un anneau d'or. J'ai en effet la preuve que ce squelette est celui du fantôme de l'opéra.
L'opéra, c'est un vaisseau merveilleusement gréé et qui imagine, dans son grand rêve d'art total, appareiller vers l'intemporel. Mais l'opéra appartient aussi à cette terre et à sa temporalité. Les spectateurs qui évoluent dans la salle en pleine lumière ou les machinistes qui filent dans les cintres ne veulent peut-être pas le savoir, mais ils marchent, littéralement, sur des morts. Gaston Leroux, quand il publie Le fantôme de l'opéra en 1910, tente de saisir ce passé qui se tient aux aguets, en latence. Il lui prête la forme d'un spectre qui franchit les miroirs ou bien celle d'une nappe d'eau qui coule souterrainement, toujours prête à rejaillir. Latence du passé, mais aussi puissance du devenir. Nous vivons un siècle après Gaston Leroux. L'opéra pourrait apparaître comme le point terminal, peut-être dépassé, d'une culture éprise d'art et d'humanité où l'époque ne se retrouverait plus. Pourtant, ses formes et ses motifs ressurgissent dans quantité de productions contemporaines, à tous les horizons. Wagner est présent dans l'univers des mangas. Gaston Leroux intéresse le cinéma chinois plus encore que le français. Le fantôme de l'opéra ne cesse d'étonner par son revif de grâce et de jeunesse.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Timothée Picard, bonjour.
Bonjour.
J'espère ne pas vous avoir choqué en parlant de votre livre « La civilisation de l'opéra » sur les traces du fantôme chez Fayard comme d'un livre extravagant.
Pas du tout, la matière elle-même est extravagante et j'ai voulu garder un peu de cet esprit-là dans mon livre.
Alors vous vous intéressez à l'opéra comme un art total, enfin c'est une utopie, l'art total. Vous êtes passionné par Wagner, aussi bien par Claudel, l'art total. Mais je ne veux pas impressionner l'auditeur. On va vous présenter d'abord comme un ancien du cœur d'enfant de l'opéra à qui ce bouquin est dédié. Et quelqu'un qui a passé près de 10 ans dans le cœur d'enfant, ça peut pas être un mauvais homme.
Oui, en tout cas, c'est sûr, c'est la racine ou l'origine même de ce livre et de toute cette réflexion autour du fantôme de l'opéra. C'est quand petit, je chantais les flocons de Tchaïkovski, de Casse-Noisette dans la fosse, et que dès que je pouvais, je m'échappais à la surveillance de mes gardiens pour m'enfoncer dans les profondeurs de l'opéra ou grimper sur les toits. Et dans ce cadre, tout le mystère, tout le charme, tout le caractère impressionnant de l'opéra m'a tout à fait saisi depuis cette époque-là. Et
c'est vrai que sur les toits auxquels on parvient par des rues de zinc, il y a des bassins qui sont assez grands pour que les enfants du cœur d'enfant y apprennent à nager.
Alors ça, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais qu'il y a des ruches, en tout cas, où on élève des abeilles. Quand j'y étais, c'était en plein hiver, et donc je ne voyais que les flocons qui tombaient sur la ville de Paris des hauteurs de l'opéra.
Oui, je vois que vous avez un grand regret de la neige. Le fantôme de l'opéra de Leroux, vous l'avez lu tardivement. Pas quand vous étiez au cœur.
Non, je pense que... je ne sais pas à quel moment j'ai entendu parler de cette légende. J'imagine que, comme elle appartient à l'imaginaire collectif, elle s'est peu à peu imposée à moi. Mais je n'étais pas tellement... praticien de la littérature populaire à l'époque, du cinéma fantastique ou autre. Et c'est donc plus tard, par le biais de ma passion pour l'opéra, que je suis venu à ce roman tout à fait fascinant.
Et que vous avez pris l'ascenseur qui vous fait faire des allers-retours entre la haute culture et la culture dite populaire. Rappelons l'argument du fantôme de l'opéra. Nous sommes dans les années 1880. Les nouveaux directeurs de l'établissement apprennent l'existence d'un fantôme dont ils ne prennent pas au sérieux les exigences. Le fantôme veut qu'on lui renouvelle ses appointements et veut qu'on lui mette à disposition la loge numéro 5 où, sans penser vraiment à mal, les deux directeurs s'installent confortablement. Ils sont calés là pour écouter la Carlotta qui répète.
Vous avez remarqué, on regarde de notre côté.
Bien sûr, c'est parce que nous occupons la loge numéro 5. On doit trouver que nous ne manquons pas d'audace. Cet excellent fantôme ne s'est pas encore manifesté. Vous avez entendu la voix, vous ?
Non. J'ai beau tendre l'oreille, je n'entends que celle de nos artistes.
Richard.
Qu'y a-t-il ?
J'ai senti quelque chose comme un souffle sur ma nuque.
Mais nous sommes seuls, voyons. Il n'y a personne derrière vous.
Vous n'entendez pas ?
Quoi ?
On dirait le bruit d'une respiration.
Mais non.
Mais si, écoutez donc.
Ma foi. Oui, il me semble aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un près de nous. Le fantôme ? Nous sommes laissés seulement impressionnés. Nous ferions mieux d'écouter la Carlotta. Elle est admirable. Oh mon Dieu ! J'ai cru voir sortir un crapaud de sa bouche.
La Carlotta ? Elle qui a au moins 2 octaves dans la voix.
C'est ainsi que la Carlotta a poussé son fameux « C'est ma voix » qui était dans sa gorge. Et ces pauvres directeurs, ils étaient dans la loge numéro 5. Ma loge. Et ils ont entendu une voix qui leur disait
« Regardez la lune !»
Un admirateur de Claudel que vous êtes, on a offert la voix dans le rôle du fantôme de...
d'Alain Cunis.
C'est une adaptation contrôlée, très serrée de Claude Roland Manuel pour la radio en 1964. Le crapaud qui sort de la bouche de Carlotta, ça fait référence au conte de Perrault. Vous racontez ça très en détail. D'ailleurs, le roux, c'est une sorte d'aimant qui rassemble toutes sortes de traditions multiformes de toute nature dans la littérature.
Oui, et d'abord et avant tout, en effet, tout un répertoire de contes et légendes populaires. On entendait Alain Cuny, on pense évidemment à la légende de la Belle et la Bête, qui est à la base aussi de l'histoire du fantôme de l'opéra. Et cette histoire du crapaud est intéressante et très représentative de l'art de Leroux, parce que littéralement, Carlotta crache un crapaud. Ça renvoie évidemment à ce conte de Perrault où deux sœurs aidées ou au contraire contrecarrées par une fée crachent l'une des crapauds et l'autre des perles précieuses. Mais ce qui est typique de Leroux, c'est un certain humour dans le traitement de cette matière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le traitement tout à fait sérieux de ce couple formé par le monstre et la jeune première. Mais il y a aussi le traitement humoristique de tout ce répertoire. Voilà, c'est à la fois un roman qu'on peut lire au premier degré, celui d'une forme de romantisme frénétique puisant un imaginaire populaire, et puis un second degré, plus ironique, plus ludique.
La jeune première n'est pas encore apparue, parce que Leroux, c'est aussi le rassemblement de toute une érotique de l'opéra. Donc la Carlotta, qui va être mise en retrait, c'est le repoussoir, l'après Castafiore, et on va voir apparaître bientôt une figure antithétique et enchanteresse. Alors on reprend notre récit, le succès de Leroux, vous dites, ça tient au fil. À la narration.
Oui, et aux péripéties aussi.
Mais il faut tenir le fil.
Il faut que le puzzle soit à la fois déconstruit pendant l'intrigue et reconstruit à la fin.
Alors, on se souvient que nos deux directeurs sont bien embarrassés de voir ce qu'il est advenu à leur diva. Que faire ?
Nous allons devoir annuler la représentation, puisqu'il paraît acquis que nous avons perdu notre diva.
Il faut trouver une doublure.
Une doublure ? Il n'y a aucune doublure pour la Carlotta.
Christine Daae pourrait chanter.
Quoi ? Une danseuse ? Ne soyez pas idiote !
Elle a étudié avec un grand professeur. Permettez qu'elle chante, monsieur. Vous ne serez pas déçu.
Approchez, mon petit, ne soyez pas timide. Approchez, nous vous écouterons.
Au début de l'aria, s'il vous plaît, mademoiselle.
André, je suis loin d'être rassuré. Très loin.
Elle est très jolie, en tout cas.
Pense à moi, tendrement pense à moi, juste une fois, ne m'oublie pas. Promets-le-moi aussi loin que tu sois. Si tu sens, loin des yeux, loin du cœur, le désir de te libérer, garde ne serait-ce qu'un moment pour penser à moi.
Commentaire au bureau et derrière la vitre, Franck Olivard qui a préparé cette émission. Mais chef, on va pas passer un truc pareil, c'est pas du tout aussi bon que l'adaptation de Claude Roland-Manuel. Jacques Sigal, le réalisateur, mais on dirait la voix de Cendrillon chez Disney. Et ben c'est justement tout votre projet de montrer l'amplitude dans laquelle se tiennent les adaptations très nombreuses de Gaston Leroux. Là, c'était 2004.
Oui, c'est l'adaptation cinématographique en 2004 de la comédie musicale de 86.
Et avec dans le doublage français Cécilia Cara dans le rôle de Christine, qui est censée manifester un accomplissement soudain de sa voix dans le rôle de Marguerite, accomplissement dans l'authenticité. C'est pas d'ailleurs l'authenticité qui intéresse tellement le film de 2004, ni non plus peut-être la comédie musicale de 86.
En ce qui concerne la comédie musicale, le talent fou qu'a déployé Andrew Lloyd Webber, c'est d'avoir réussi à comprendre ce que l'on voulait à la moitié des années 80 et apparemment jusqu'à aujourd'hui, puisque cette comédie musicale est donnée depuis de manière ininterrompue à travers le monde.
Et d'avoir, à Mogador,
à l'automne. D'avoir compris très exactement quelle histoire d'amour chantée le public mondial avait envie d'entendre et de créer les... C'est quelqu'un qui est très doué, Andrew Lloyd Webber, et d'avoir exactement produit les tubes que la société de l'industrie culturelle mondialisée souhaitait.
Donc ces adaptations ne sont pas fidèles, il a raison, Franck Olivard, sauf qu'elles sont fidèles à l'intention première de Gaston Leroux, qui lui-même était à la charnière de l'ancien et du moderne, et qui aurait été ravi d'adapter lui-même, d'ailleurs, au cinéma, de n'importe quelle façon, son fantôme de l'opéra.
Très probablement. Un roman populaire, à l'époque de Leroux, doit connaître des transformations successives. Adapté au théâtre, publié en roman photo, monté à la scène, et Gaston Leroux lui-même a monté une société de cinéma à la fin de sa vie, la Société des Ciné-Romans, où il a adapté une partie de ses œuvres. Il aurait pu adapter le fantôme, ce qu'il n'a pas fait, mais il aurait pu, des informations laissent entendre qu'il aurait pu s'en emparer. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de Leroux. Mais pour revenir à Andrew Lloyd Webber, comme Leroux, brode aussi sur un certain imaginaire de la femme, un imaginaire un peu rétrograde, un romantisme un peu rétrograde que l'on associe à un certain imaginaire aussi de la femme au XIXe siècle.
Il n'y a qu'en France, au fond, qu'il n'y a pas eu tant d'adaptations que ça de... Les fantômes de l'opéra. Ah si, il faut quand même qu'on rehausse un peu le niveau de notre émission et que vous parliez du projet de Patrice Chéreau.
Oui, en effet, c'est assez curieux parce que cette légende a essaimé à travers le monde entier, aux États-Unis, en Chine, en Amérique du Sud ou ailleurs. Mais bizarrement, elle n'a pas connu en France le succès qu'elle a rencontré à l'étranger. Il y a quelques exemples, mais néanmoins, Patrice Chéreau et d'autres cinéastes, Benoît Jacquot, Christophe Honoré ou d'autres, reviennent sans cesse, des cinéastes qui évidemment travaillent avec l'opéra, sont eux-mêmes metteurs en scène d'opéra, tous reviennent à cette légende et tous témoignent, caressent vaguement l'idée, le rêve de s'emparer de cette légende un jour.
Ce qui aurait plu à Chéreau, c'est la scène du lustre. On a entendu tout à l'heure les directeurs dire « Regardez le lustre !» Qu'est-ce qui se passe avec ce lustre ?
Oui, c'est une des grandes scènes fameuses du livre et des films ensuite, un morceau de bravoure. C'est quand, là aussi, avec une espèce d'humour glacial, Leroux prend au pied de la lettre la formule « Elle chante ce soir à décrocher le lustre hein. !» Et Carlotta chante si bien, en effet, que le fantôme scie la base du lustre et que le lustre tombe sur le public et, suivant les versions, fait plus ou moins de morts. Enfin, c'est un des moments vraiment tragiques, sanglants, spectaculaires de l'histoire. Et en effet, Chéreau confie avec une sorte de plaisir pervers que c'est une scène qui le fascine assez.
La vitalité transformiste du fantôme de l'opéra, je reprends vos mots, Timothy Picard, est telle qu'il y a eu, pas eu beaucoup de versions françaises, mais plusieurs versions chinoises. Première adaptation au cinéma, 37.
Oui.
Il y a eu une adaptation en 1995. Ce qu'on va entendre ici, c'est un téléfilm plus récent. Et puis, surprise encore pour les puristes qui nous écoutent, une version heavy metal.
Sous-titrage Société Radio-Canada
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes sur les traces du fantôme de l'opéra avec Timothée Picard qui publie chez Fayard un gros livre, je le répète, extravagant sur la civilisation de l'opéra avec ce sous-titre. Alors, on comprend que vous êtes un omnivore, que maintenant vous dévorez tout, la culture industrielle de masse, la culture populaire, la haute culture. Tout de même, vous voudriez goûter aussi, et votre souci d'être curieux de tout n'empêche pas une inquiétude.
Oui, c'est-à-dire que en travaillant sur un spectre très large qui va du spectaculaire romantique jusqu'à l'industrie culturelle mondialisée d'aujourd'hui, j'interroge évidemment le devenir de la culture, des cultures dans le monde occidental, et évidemment je ne peux pas ne pas m'interroger sur ces évolutions, sur l'articulation entre culture savante et populaire, avec un aspect tout à fait optimiste dans le livre, montrant la richesse des échanges entre l'un et l'autre. Sur ce plan-là, je n'ai aucune inquiétude, mais cependant, je pose quand même la question de la valeur des œuvres auxquelles j'ai affaire. J'ai affaire à des œuvres de qualité extrêmement variable. Ça peut être un chef-d'œuvre dans le genre du film d'horreur, du giallo, comme ça peut être aussi une horreur sur le plan de la littérature savante ou académique. Mais voilà, j'essaye d'interroger le devenir de notre culture et j'essaie de voir ce que ma passion première, qui est l'opéra, la littérature, devient aujourd'hui. Voilà.
Mais comment peut-on dédier un livre aussi savant, aussi érudit, à la fois au cœur d'enfants de l'opéra dont vous avez été membre et à la communauté des fans, P-H-A-N, comme Phantom of Opera.
Oui, voilà, c'est la communauté des fans, ils se sont nommés eux-mêmes ainsi, sur le modèle anglo-saxon, après le succès de la comédie musicale d'André Weber. Et en fait, j'ai découvert dans ce travail un phénomène absolument fascinant qu'on connaît bien quand on travaille sur Tolkien, sur Harry Potter ou autre, c'est la communauté des fans, la fanfiction, la communauté des fans qui investissent un univers, s'en emparent, écrivent des histoires parallèles pour essayer de compléter l'univers de la fiction en question. Et c'est le cas pour le Fantôme de l'Opéra, c'est absolument incroyable. Ce monde, cette communauté de fans, principalement dans le domaine anglo-saxon, mais aussi en France, qui s'est agrégée autour de cette œuvre. Et cette communauté n'est pas du tout... c'est une communauté de qualité tout à fait passionnante, qui mène des réflexions tout à fait poussées sur ce que c'est que la littérature, le suspense, la narration, faire peur, faire plaisir, faire jouir. J'ai vraiment découvert à cette occasion cette communauté-là, et j'ai découvert aussi des œuvres terribles, enfin terribles à l'eau de rose, de Romain Arlequin et autres. Mais j'ai découvert aussi globalement des fans extrêmement, avec une conscience extrêmement aiguë de ce que doit être un divertissement aujourd'hui. Et ça m'a vraiment fasciné, ça m'a aussi rassuré. Et voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, d'échanger, et j'avais aussi envie de leur rendre hommage.
Alors le net sur lequel se déploie toute cette activité peut ressembler à un écheveau qui aurait été emmêlé par les pattes d'un jeune chat. Alors je vous propose qu'on reprenne notre fil. Le succès de Gaston Leroux tient au fait qu'il oblige l'auditeur ou le lecteur à le suivre dans sa narration pas à pas. Christine va disparaître à plus d'une reprise, notamment à l'issue d'un bal masqué où le fantôme est apparu dans un état éblouissant.
Oui,
Il a laissé comme hypnotisé, c'est pour ça qu'elle est partie sur ses pas.
Il porte le masque de la mort rouge. Ça renvoie à un imaginaire très ancien, évidemment, la représentation de la mort à l'époque de la peste, etc. Ça renvoie aussi à un conte très connu de Poe, dans lequel la mort apparaît au cours d'un bal masqué sous cet habit. Et c'est ce que reprend donc Leroux dans son roman. Et ça crée une scène absolument fascinante dans la première grande adaptation du film de 25 de Robert Jolyan. Cette scène, une scène d'ailleurs en couleur, dans un film qui est colorisé mais qui n'est pas colorié comme les celles-là, enfin une scène absolument magnifique visuellement. On le voit descendre le grand escalier de l'Opéra de Paris, reconstitué intégralement dans les studios Universal en Californie. Et ça a été cette scène absolument une scène fondatrice pour tout un imaginaire. Scorsese, Coppola, Dario Argento ou d'autres disent qu'ils ont trouvé, enfin que c'est la scène matricielle qui leur a donné envie de faire du cinéma.
Et le fantôme va consigner Christine à plus d'une reprise dans les caves, les souterrains, les entrailles, le ventre de l'opéra. Écoutez, cette version, elle date de 1983. Je ne suis pas sûr qu'elle se passe à l'opéra Garnier.
Dites-moi où je suis.
Juste en dessous de l'opéra, là où personne ne pourra jamais vous trouver. N'essayez pas de fuir. Il n'y a aucune issue. D'ailleurs, vous vous perdriez dans les dédales des égouts, et puis la grille est fermée. Même si vous criez, personne ne vous entendra. Vous voyez, personne ne peut vous entendre. Voici votre maison, votre refuge, votre sanctuaire.
Et un orgue, comme à la maison de la radio. Je vous ai fait visiter le ventre de la maison de la radio avant l'émission, Timothée Picard.
Oui, c'est
qu'est-ce que c'était ?
C'était un lieu où, manifestement, on peut se ravitailler.
Avec les AMAP.
Exactement.
Les employés de la maison de la radio.
Voilà, et c'est assez amusant.
Souterrainement acheter des produits biologiques.
Oui, mais ça n'est pas étonnant. En même temps, c'est une ville-monde, tout à fait, comme l'Opéra Garnier.
Et c'est arrivé à l'Opéra Garnier, qu'on y fasse marcher ?
Pas tout à fait. Beaucoup de légendes courent à ce sujet. Mais en tout cas, pendant la guerre de 70, on l'a utilisé comme garde-manger, en effet, comme hôpital. Enfin, il y a eu cette sorte d'utilisation-là.
Quand il était encore inachevé, vous me direz que c'est le cas aussi de la maison de la radio, toujours en chantier. Mais je reviens à la version de 83 dont on a entendu un extrait, Robert Markowitz. On n'est pas à l'Opéra Garnier ?
Non, on est à l'Opéra de Budapest. Parce qu'un des intérêts aussi du roman, et de ses adaptations, c'est de circuler à travers les villes, les lieux. Et donc, on est à l'Opéra de Budapest. On peut être à Londres, on peut être en Chine, on peut être aux États-Unis. Et donc celui-ci vient agréger en fait à son imaginaire tout ce qui est l'imaginaire de l'Europe centrale, plutôt du côté de Dracula par exemple. Et puis dans la scène, on voit il y a des interactions entre les dessous de l'opéra et les bains de Budapest. Voilà.
Mais tout opéra digne de ce nom doit avoir un ventre dissimulé. Par exemple, l'opéra comique Salle Favart est en travaux. Et on organise maintenant des visites avec des figurants costumés dans ce qui est supposé être le ventre de l'opéra comique et qui est en fait simplement l'escalier de service, le hall en chantier et la scène au-dessus de laquelle flottent des sacs poubelles qui font l'émerveillement des visiteurs.
Mais c'est aussi que, enfin, l'opéra, avec ses hauteurs et ses profondeurs, sont un peu le symbole de notre psyché collective, avec les choses que l'on sait, conscientes, étincelantes et belles, disons, dans les hauteurs, et puis tous les refoulés, toutes les horreurs, toutes les monstruosités que les individus ou la collectivité refoulent dans les profondeurs, et de temps en temps, on a envie d'aller les voir, de se faire peur et d'aller les voir.
En 1907, alors que Leroux pensait peut-être déjà aux fantômes de l'opéra, le directeur de Gramophone avait conduit dans les souterrain du palais Garnier, une étrange procession qui était porteuse de deux urnes. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces urnes ?
Oui, c'est une expérience que j'ai découverte tard et qui m'a absolument fasciné. On y enfermait des voix enregistrées, premiers grands enregistrements, des voix enregistrées, dans des urnes, en effet, scellées. Et l'idée, c'était qu'on les déterrerait 100 ans plus tard, pour apprendre aux générations futures quel était l'état de la technique des appareils permettant de diffuser le son et la voix à l'époque. Donc il y a même un manuel d'utilisation de la machine. Et puis surtout, quel était l'art du chant de l'époque.
Ce qu'on fuit, en 2007, on ouvrit une des urnes. Ensuite, la restauration des disques conservés dans cette urne a été faite très soigneusement. On trouve sur un site Voix ensevelie de la Bibliothèque nationale de France ceci. D'abord la voix de Firmin Gémier, et puis deux matrices de l'œuvre de Leroux, Don Juan et Faust de Gounod.
Où les voix endormies auraient-elles trouvé meilleur et plus sûr accueil? Il appartenait au temple de la musique dramatique française de tenter ce miracle de conserver à nos arrière-petits-fils ce qu'il y a de plus fugitif au monde, ce qui n'a ni corps ni durée, la voix humaine. Ce charme souverain de la voix humaine, nous l'aurons sauvé de l'oubli. Et le chanteur pourra dire à son tour, non omnis moria.
Adelina Patti, Zerline dans Don Juan et Paul Plançon, Méphisto dans Faust. Il fallait quand même que les puristes qui avaient consenti à vous suivre jusqu'ici, Timothée Picard, aient une récompense. Les voix ensevelies.
Mais c'est tout à fait fascinant ce geste. Hein. C'est un geste qui est un geste scientifique, politique, historique, collectif, et en même temps qui renvoie l'imaginaire de la science-fiction pure. Enfin, c'est une expérience qui pourrait être à la base d'un roman de Jules Verne, de Villiers-l'Isle-d'Adam ou autre. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on les institutions sont si nourries de l'imaginaire musical, fantastique de l'époque qu'elles tentent ce genre d'expérience. Que je trouve pour ma part, en plus c'est vraiment enfoncé dans les profondeurs de l'opéra comme les mannes des chanteurs et comme qui viendraient nourrir le bâtiment, l'imaginaire collectif.
C'est une utopie, l'art total. C'est une très belle utopie aussi que de rêver que les voix ne vieillissent jamais. Vous dites du cœur des enfants de l'opéra que vous aimeriez récupérer son ton juste de l'enfance perdue.
Ah, je me souviens plus avoir dit ça, mais je pense que c'est...
Non, c'est moi qui aménage de citations de vous. Mais le ton juste de l'enfance perdue, j'ai trouvé ça
c'est...
sous votre plume.
Oui. Oui, y a quelque chose qui... Enfin, cette œuvre est aussi habitée par une forme de nostalgie, en effet, d'un état de sensibilité au merveilleux, d'un état de sensibilité aux voix, dans leur état de chant pur. Et en effet, en m'enfonçant dans les profondeurs de l'imaginaire musical collectif, de l'imaginaire fantastique collectif, j'ai peut-être voulu reprendre contact.
On peut couper la
cette enfance perdue qui était celle du cœur d'enfant de l'Opéra de Paris.
Plus on est savant, plus on est enfant. Merci à vous Timothée Picard.
Merci beaucoup.
Sur les traces du fantôme, la civilisation de l'opéra chez Fayard. L'émission a été préparée par Franck Olivard, réalisée, je l'ai dit, par Jacques Sigal, avec à la technique Pauline Laverdure.